Mardi 27 novembre, à l'hôtel du département, a eu lieu la cérémonie des lauréats du budget citoyen du Conseil départemental de l'économie sociale et solidaire. Durant le mois de septembre, 3971 votants et votantes ont élu les projets qui bénéficieront d'un soutien financier. Sur 144 propositions, au final, ce sont 41 projets qui seront soutenus. Pour nous parler de la démarche de l'ESS et de cette première édition du budget participatif, nous écoutons la vice-présidente du département.
Je suis Bénédicte Messéane-Grobelny, vice-présidente au département du Pas-de-Calais, avec en charge les personnes en situation de handicap, le numérique et l'économie sociale et solidaire.
Est-ce que tu peux rappeler en quoi ça consiste l'économie sociale et solidaire ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, avant tout, c'est une vraie économie, mais par contre, c'est une autre façon d'entreprendre. On entreprend de façon, on a une gouvernance partagée, on crée du lien social, on innove socialement aussi, et surtout, on dynamise beaucoup les territoires.
Aujourd'hui, c'est la dernière étape du budget citoyen. C'est une première, quelle a été le déroulement ?
Alors effectivement, c'est le premier budget citoyen que nous avons lancé en 2017, enfin qui a été voté en 2017, toute l'année 2018. Donc avec au démarrage 122 dossiers déposés, 15 comptoirs à initiative citoyenne tenus, dans tout le département. Pour permettre justement aux habitants du Pas-de-Calais qui avaient une idée et qui l'avaient déposée de co-construire pour avoir un projet concret. Donc ensuite, ça a été déposé sur une plateforme. Donc il y en a eu exactement 49 et 41 projets ont été labellisés sous les trois critères, économie sociale et solidaire, sous l'un des trois critères ou l'innovation sociale ou la coopération.
Et pourquoi avoir depuis cette année, transformer la labellisation justement des projets d'économie sociale et solidaire en budget participatif.
Pour impliquer en fait tous les habitants du Pas-de-Calais, parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, les structures créent un lien, dynamisent un territoire, permettent aux gens d'avoir une structure proche de chez eux. Et il était normal aussi de redonner envie aux gens de s'impliquer dans la vie de sa commune, de sa ville. C'était essentiel, je pense, parce qu'il faut que chacun puisse intervenir et faire ses choix dans la vie. Je pense que c'est essentiel. Le budget citoyen du département du Pas-de-Calais, c'est vraiment, tout a été fait avec les habitants du Pas-de-Calais. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, sur une ligne de fonctionnement, ils ont pu venir nous voir. Nous les avons aidés à co-construire leur projet, leur idée en projet, et à partir de là, ça s'est concrétisé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la concrétisation et c'est extraordinaire. Alors, c'est sûr qu'il en reste encore, parce que les projets n'étaient pas encore arrivés et n'étaient pas encore assez mûrs, et on continue à travailler avec eux pour que, justement, ils puissent se réaliser, parce qu'encore une fois, l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie économie.
Alors, aujourd'hui, c'est le conseil départemental qui met en place un budget participatif, un budget citoyen. Il y a aussi des communes qui le font. Ça m'interroge sur le fonctionnement politique, c'est-à-dire qu'en ce moment on est en plein mouvement des Gilets jaunes qui manifestent quand même une crise de la représentation politique. D'un autre côté, les collectivités mettent en place des budgets citoyens. Est-ce que ça peut être un transfert de procédure dans la manière dont on s'organise politiquement ?
Effectivement, et beaucoup de communes organisent, de grandes villes surtout, organisent des budgets citoyens, mais jamais dans un budget de fonctionnement. C'est-à-dire que pour nous, déjà, le département du Pas-de-Calais, nous permettons aux habitants de prendre, d'influencer sur une ligne de fonctionnement d'un budget où seulement les élus normalement interviennent. Déjà, ça, c'est l'essentiel. C'était vraiment, encore une fois, pour que les habitants puissent s'investir dans leur vie de tous les jours. Alors ensuite, effectivement, parfois, on me l'a reproché. On m'a dit, oui, c'est un peu facile, vous, les élus, vous donnez le pouvoir comme ça à la population. Et c'est un désengagement. Au contraire, c'était très audacieux. C'est audacieux parce que je suis une élue de terrain. J'aime la proximité et j'aime co-construire avec les habitants du Pas-de-Calais. Je pense que pour avoir une politique qui les concerne et qui les intéresse, il faut qu'ils soient impliqués.
Et est-ce que les budgets participatifs, c'est plutôt un début ? Et est-ce qu'il ne va pas falloir, au bout d'un moment, aller encore plus loin dans l'implication des citoyens et des citoyennes dans les décisions politiques et notamment ou premièrement à un niveau local, là où c'est plus facile ?
Alors là, c'est une grosse question. C'est vrai que là, c'est notre premier budget citoyen. C'était notre année test. On s'aperçoit quand même qu'on a eu sur nos 122 projets, en fait, 122 personnes qui sont venues nous voir dans nos comptoirs, on a quand même eu 40 personnes qui n'y connaissaient rien à l'économie sociale et solidaire. Donc, qui avaient envie, qui nous ont montré qu'ils avaient envie. Après, la politique en règle générale, vous dire est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça, ça n'est pas toujours évident. Je sais que moi, je l'ai voulu, ce budget citoyen, je l'ai voulu surtout participatif. Mais là, on est surtout avec l'économie sociale et solidaire sur une économie de lien, de sens humain. Donc, c'est beaucoup plus facile. Après, l'autre question, je suis désolée, votre question profonde, c'est un engagement qu'aujourd'hui, en fait, je n'ai pas envie de vous répondre sans que ce soit... ça n'est pas de la censure, c'est simplement parce qu'aujourd'hui c'est une très très belle après-midi, c'est essentiel et je pense que j'ai du mal encore, il faudrait que j'y réfléchisse plus longuement.
Il y a beaucoup de projets qui concernent des sujets d'intérêt collectif, notamment le handicap, notamment l'alimentation, l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, la culture, la mobilité, dans la mesure où ça va être construit au sein d'associations. Est-ce que l'associatif devient pas en quelque sorte palliatif de choses dont peut plus s'occuper l'État ou les collectivités ?
Cette question-là, faudrait la poser aux structures déjà existantes de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'en fait, souvent, c'est quand même pour eux un métier, c'est une vraie entreprise, c'est de vrai entrepreneuriat. Alors peut-être ça se substitue, peut-être c'est simplement un besoin qu'ils ont ressenti et c'est surtout une création qu'ils ont envie de faire. On en est là. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est pas si évident puisque normalement, l'économie pure, depuis la loi NOTRe, a été réservée à la région et aux intercommunalités. Nous sommes le seul département des Hauts-de-France à avoir poursuivi cette économie sociale et solidaire qui va irriguer toutes les politiques du département, ce qui va nous permettre ce beau filigrane, ce fil rouge, comme j'aime à dire, ce qui va permettre effectivement de pouvoir flécher toutes les politiques du département. C'est pour ça qu'on peut arriver à l'impulsion, puisque le département n'est qu'à l'impulsion, sur le handicap, sur l'environnement, sur le recyclage, les ressourceries, enfin, sur toutes les politiques du département.
Lauréat du budget citoyen de cette année, le Fab Lab de Béthune, qui avait installé dans le hall du département une imprimante 3D, nous est ici présenté par Kevin. Vous entendrez juste après un entretien de Lucas, membre de l'APIASSO, association qui organise des ateliers, des voyages et des manifestations pour les habitants et habitantes de Saint-Paul-sur-Ternoise.
Du coup, le Fab Lab, en bon français, on pourrait appeler ça un centre de fabrication numérique où le but, c'est de mutualiser des machines-outils telles que l'imprimante 3D, la découpe laser, pour que tout le monde y ait accès, que ce soit du petit particulier qui a besoin d'une pièce de remplacement pour son bouton de gazinière, de l'auto-entrepreneur qui a besoin d'une pièce de prototypage bien spécifique pour un de ses projets, des collectivités, des associations qui ont besoin d'ateliers spécifiques, par exemple pour des enfants ou un groupe, une animation. Dernièrement, on a fait une animation avec des enfants sur des calendriers de l'Avent, donc la construction d'un calendrier de l'Avent à la découpeuse laser. Et le but, c'est de fédérer une communauté autour de ce Fab Lab pour qu'il y ait des échanges de compétences autour des différentes machines ou des différents projets.
Et c'est libre d'accès ?
Oui, c'est libre d'accès pour tout le monde. Donc on a une cotisation à l'entrée qui nous permet d'accéder au lieu. Et ensuite, on a la tarification machine. Donc ça veut dire qu'une fois on est abonné, on peut venir travailler toute la journée au Fab Lab. Si on n'utilise pas les machines, il n'y a rien du tout qui va nous être facturé à la fin. Par contre, si on imprime par exemple une heure en impression 3D, ça va nous coûter 5 euros. Mais on peut venir travailler toute la journée au Fab Lab sans qu'il y ait de facturation à la fin. Et en plus, on peut bénéficier soit des conseils des personnes qui travaillent ici, soit des conseils de la communauté du Fab Lab, s'il y a une personne qui a peut-être déjà fait ce même genre de projet, ou une personne qui s'y connaît, par exemple, en dessin, qui peut échanger un peu de compétences avec la personne qui est en train de réaliser son projet.
De quelle manière ça se rattache à l'économie sociale et solidaire, d'après toi, sur quels critères vous avez réussi à être lauréat pour ce budget participatif ?
Déjà, c'est une façon aussi de consommer autrement. Dans une première chose, la consommation, si on a une pièce qui est cassée, on n'échange pas forcément, on peut venir redessiner, imprimer. Et après, c'est aussi la collectivité qu'on a réussi à créer autour de ce Fab Lab-là. On travaille par exemple avec un groupe de seniors de la ville de Bruay-la-Buissière sur des ateliers internet, utilisation de l'ordinateur, de Windows ou des choses comme ça. On travaille avec un foyer d'accueil médicalisé de Viternes avec des jeunes polyhandicapés sur de la fabrication numérique. Donc là, dernièrement avec eux, on a fait des ateliers. Ils organisent un marché de Noël début décembre. Donc on a fait un atelier avec eux. On a créé des décorations de Noël, des tote bags ou des choses comme ça pour qu'ils puissent vendre. Donc c'est vraiment, ça fait un peu partie de l'ESS, tout, cette communauté qu'il y a autour d'échanges de personnes, de catégories socio-professionnelles aussi.
Alors là, on a une imprimante 3D qui fonctionne sous nos yeux. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors une imprimante 3D, on va dire que la fonction principale, c'est vraiment le prototypage, soit de pièces uniques pour une machine bien spécifique ou pour un projet, ou soit aussi pour des pièces de remplacement. Je pense à ça, là par contre, on a travaillé avec les handicapés du foyer d'accueil médicalisé. On a reconstruit avec eux une poignée de lits médicalisés qui étaient cassés. Donc on est venu redessiner pour réimprimer juste la poignée. Ça a évité de changer complètement la télécommande de la personne. On fait aussi régulièrement tout ce qui est boutons de gazinière, boutons de micro-ondes ou des choses comme ça. C'est des produits qui reviennent régulièrement. Et après, c'est un côté aussi parfois un peu plus ludique, comme avec des enfants, imprimer des choses un peu plus spécifiques. Là, dernièrement, on avait fait un atelier, on avait été venu imprimer des dinosaures en flex. Du coup, les dinosaures étaient articulés dans tous les sens ou des choses comme ça.
Tout ça, ça se revendique aussi des courants do it yourself. De quelle manière ça peut favoriser justement l'autonomie des gens par rapport soit à la marchandisation, soit par rapport à la société de consommation?
L'avantage d'un Fab Lab, c'est vraiment la mutualisation des machines. Donc en fait, c'est l'accessibilité à des machines. Je veux dire, une imprimante 3D, on est quand même si les prix ont tendance à baisser, on ne va pas en trouver, on va dire, en dessous de moins de 300 euros, des choses comme ça. Donc ça fait un investissement pour une personne, pour une pièce de rechange, alors que la mutualisation d'une imprimante 3D dans un Fab Lab, on peut imprimer une pièce de rechange, on aura par exemple juste pour 5 euros. C'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable et beaucoup plus faisable pour l'ensemble d'une population. Je pense plus à la découpeuse laser, où là on peut faire des projets un peu plus personnalisés. Là dernièrement, il y a une personne qui est venue faire une boîte à thé personnalisée pour un anniversaire. Donc elle avait vu son modèle dans un magasin, et du coup elle a vraiment été très très loin dans la personnalisation, avec une petite phrase au-dessus qui dit en rapport avec la personne, et un modèle même un peu plus grand que ce qu'elle avait vu, ou des choses comme ça. Donc c'est une façon de consommer, de faire soi-même. Et puis après, je pense que c'est aussi la fierté d'offrir un cadeau qu'on a fait soi-même. C'est bien des fois on n'est pas toujours fier de ce qu'on fait dans le travail, ou d'acheter un produit, de l'emballer au magasin. Là, on l'a pensé, on l'a fait nous-mêmes, on l'a construit nous-mêmes, on l'a monté, on l'offre. Au bout, c'est quand même un résultat qui est super cool.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, avec ces outils numériques, avec les imprimantes 3D, même si on comprend bien que ça permet de réparer des objets chez soi plutôt que de les acheter, même si ça permet de mutualiser des compétences, est-ce qu'il n'y a pas une perte de savoir-faire par rapport à justement des savoir-faire qui seraient artisanaux?
Il faut savoir que du coup, une imprimante 3D de base, c'est quand même assez bête s'il n'y a pas la personne derrière pour la contrôler. Elle ne sait pas travailler toute seule, un peu comme un ordinateur. Il y a 20 ans, on disait l'ordinateur, on n'a qu'à s'asseoir devant, il fait tout. Pour finir, un ordinateur, si on s'assoit devant, il fait rien du tout. Il a besoin de l'homme pour utiliser ça. Après, je pense que ces machines outils-là, justement, ils peuvent apporter une compétence en plus à ces personnes de corps de métier artisanal ou des choses comme ça. Je pense à ça, il n'y a pas très très longtemps, on a eu un ébéniste qui réalise des portes ou des choses comme ça. Et justement, il y avait besoin de détails en plus sur une porte qui n'était pas forcément faisable à la main, mais en découpeuse laser, ça pouvait s'intégrer après à son projet de porte. Donc je pense que justement, ça peut apporter des compétences supplémentaires à certains corps de métier bien particuliers sur la manipulation de machines. Ça peut être, on va dire, une compétence en plus, un savoir-faire en plus qu'ils peuvent vendre après sur une réalisation de produits finis ou des choses comme ça.
Sur une imprimante 3D, on peut utiliser quoi comme matière? C'est quoi les matériaux qu'on peut y mettre?
Alors, on va dire que les deux matériaux principaux avec lesquels on imprime, ça va être de l'ABS. Donc l'ABS, c'est un plastique de notre quotidien. C'est tout ce qui est télé, téléphone, ordinateur, c'est fait à base d'ABS. C'est ce plastique-là qui est utilisé pour tout ce qui est pièces de rechange, où il va avoir une résistance mécanique. Après, le souci de cet ABS-là, c'est qu'il y a un peu de pétrole, un peu de chimie dessus. Donc il faut pouvoir ventiler la pièce, ou au moins pouvoir fermer l'endroit où on est en train d'imprimer. Il y a un peu d'évaporation de plastique qui n'est pas toujours très très bonne pour la santé. Et le deuxième matériau principal, on va dire que c'est un plastique qu'on appelle PLA, donc qui est fait avec l'amidon de maïs. Donc là, biodégradable, il n'est pas dangereux pour l'incident en impression. On peut imprimer sans odeur, là il y a une imprimante qui fonctionne, il n'y a pas d'odeur spécifique. Mais après il y a des filaments, on va dire, un peu plus différents, en nylon, imitation bois, on appelle aussi du filament flex, donc un peu plus flexible par exemple pour faire des joints ou des pièces bien spécifiques. Et après, on commence à voir arriver des filaments, même effet brique ou effet ardoise ou des choses comme ça, qui se travaillent un peu différemment. Ça, c'est des technologies qui arrivent. Sinon, après, à base de résine, donc c'est une autre technologie. En gros, c'est pas du dépôt de fil chaud comme celle qui est en train de tourner. C'est vraiment c'est un laser qui vient venir solidifier de la résine dans un bac pour créer la pièce.
Moi, c'est Lucas Truffier. Je suis partie de la Piasso depuis 3 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est la Pi Association ou Apiasso?
La Apiasso, c'est une association de jeunes qui se regroupent pour organiser des voyages pour les personnes qui ne peuvent pas partir forcément tout le temps en vacances. Et ça permet aux personnes de pouvoir avoir des loisirs en dehors de leur vie de d'habitude, en fait.
Comment elle a été créée, l'association?
C'est parti d'un groupe de jeunes qui venaient dans une MJC pour s'amuser, en fait, de base. Et c'est les animateurs qui nous ont demandé si on voulait participer à une association, voilà. Et puis c'est de là où est parti le projet.
Et toi, tu joues quel rôle? Tu fais quoi dans l'association?
Alors, j'ai pas de rôle particulier, je suis membre. Donc voilà, mais le président n'a pas pu se libérer parce qu'il est au lycée. Mais on se réunit au moins une fois par mois pour parler des projets suivants ou des manifestations qu'on va organiser pour pouvoir récolter de l'argent justement pour organiser les voyages.
Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de voyage ou de manifestation?
Il n'y a pas longtemps, on est parti à Londres grâce à la foire agricole où on a pu récolter de l'argent grâce à nos activités et grâce aux dons des gens. Ce qui a permis pouvoir partir à Londres.
Vous avez fait quoi à Londres?
Alors moi, j'y étais pas, donc je sais pas.
C'est pas forcément vous qui partez
Non, en fait, c'est les gens du quartier qui peuvent venir avec des prix un peu plus abordables que la moyenne.
Alors c'est pas frustrant de récolter de l'argent et pas pouvoir partir en voyage avec les autres?
Je devais y aller et au final, ça a pas pu se faire, j'ai eu un imprévu.
T'as appris des choses là en venant aujourd'hui?
J'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses, je pourrais pas tout expliquer là, mais...
Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce qui t'a un peu marqué dans ce qui a été dit, dans ce qui a été présenté?
J'ai appris qu'il n'y a pas que les associations, il y avait aussi d'autres jeunes qui ne faisaient pas partie de l'association, qui voulaient parler aussi, donc voilà, c'est intéressant, comme ils ont parlé d'Adèle dans la vidéo. J'ai appris qu'il n'y avait pas que dans les associations que les jeunes pouvaient parler, qu'il y avait aussi à l'extérieur, en fait. Et qu'ils voulaient trouver des moyens de pouvoir parler aussi, les jeunes, donc voilà.
Et sinon, toi, t'as d'autres activités? Tu parles de l'engagement des jeunes, l'implication des jeunes dans la vie associative, dans la vie citoyenne. C'est des choses qui t'importent?
C'est très important. Je fais aussi partie d'un CMIJ des jeunes, en fait. C'est un conseil municipal des jeunes. Et en fait, ça permet aux jeunes aussi de pouvoir parler et créer des mini-projets, on va dire, dans la ville, dans sa banlieue sartanoise.
T'as l'impression qu'ils t'écoutent, les adultes, ou...
Dans notre cas, oui, parce qu'on est très écouté par le maire de Saint-Paul. On est beaucoup intéressé par les gens, surtout par les élus aussi. On envoie souvent des élus pendant les réunions. On se réunit une fois tous les 15 jours, un lundi tous les 15 jours.
Et t'as d'autres projets sous le coude?
Là, on a pour projet dans Saint-Paul, plutôt dans la salle Léo Lagrange, de pouvoir faire une sortie, enfin pas une sortie, mais une après-midi roller, où ils vont pouvoir faire du roller en salle. Mais pour l'instant, c'est qu'un projet, on n'en a pas encore. C'est pas encore décidé tout à fait. Nous, on travaille dessus sur le projet et de pouvoir trouver des solutions sans que ça contraigne certaines personnes. Mais là, on a bientôt terminé.
Moi, c'est Pierre. Donc, Le Gobelin du Ternois, c'est un journal local associatif donc basé dans le Ternois, donc sur la commune de Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc, c'est un journal exclusivement en ligne. Donc gratuit, accessible à tous. On a aussi les articles en vitrine pour ceux qui n'ont pas internet, donc dans le centre de Saint-Paul, sur la place du Maréchal Leclerc. Donc il y a les articles qui sont affichés donc pour tout le monde. Donc c'est un journal qui parle de l'actualité locale, associative, des projets qui sont menés sur le territoire, autant au niveau culturel que associatif, que de développement de petites structures, de sociétés. Dans un esprit sympa, ouvert, et voilà, on veut faire du journalisme positif.
Tu peux donner un exemple de journalisme positif, d'articles récemment parus, de sujets dernièrement traités?
Sur les derniers jours qui sont peu anxiogènes avec les histoires des gilets jaunes, tout ça, nous voilà, on essaye de Pierre, le journaliste, a été donc sur le terrain avec des gens contents, que ce soit les gilets jaunes ou les autres, pas de débordement, pas montrer l'autre côté aussi du journalisme, ce qui est pas fait dans tous les autres médias, avec un ton neutre et positif, et sur aussi on essaye du coup de on fait pas de faits divers, on essaye de montrer les initiatives, donc les petites assos qui se débrouillent comme ils peuvent pour faire des projets super et faire parler d'eux d'une manière concrète et de leur offrir aussi une possibilité de communiquer facilement. Quand on est la tête dans le guidon dans sa petite association, on n'a pas toujours les médias à portée de main et la possibilité de communiquer gratuitement et facilement.
Et alors ça veut dire, ce journalisme positif, ça veut dire que vous ressentez la nécessité de faire un média ou de faire du journalisme différemment, de manière alternative, un autre média ?
Ben oui, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens à mettre en valeur, beaucoup d'idées, beaucoup d'alternatives à tout ce qu'on nous propose. Nous, on fait un journal pour les gens, donc on est proche des gens. On fait pas ça pour l'argent. Là, on est tous bénévoles. On va créer un emploi là, à l'issue, à la fin de l'année. Mais c'est dans un esprit de coopération avec les associations. On est tenu par personne. On n'a pas de grand chef qui nous dit de tenir une ligne, parce que ça va faire du clic, parce que tout ça. Là, non, c'est nous, notre envie, notre orientation. Donc, on n'est pas politisé. On est d'un certain côté plus que de l'autre, forcément. Mais on n'est pas politisé, on ne veut pas faire de politique, on veut faire du média sain et du média qui aide et qui intéresse les gens et qui leur ouvre les portes de choses qui se passent à côté de chez eux et auxquelles ils n'auraient pas forcément accès.
Et d'après toi, de quelle manière ça s'intègre à l'économie sociale et solidaire ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu être éligible, que votre projet a été porté, voire que vous avez été lauréat pour ce conseil départemental de l'ESS ?
C'est un journal gratuit, pour tous les habitants du Ternois ou d'ailleurs, même si ça parle exclusivement du Ternois. On est une association en direction collégiale, donc une personne, une voix. Donc là, on était 6 à la création, là on est 7. Il y a Aurélien, un stagiaire qui nous a rejoint en tant que bénévole maintenant en commercial. Et donc qui nous aide à développer aussi, à faire rentrer un petit peu d'argent, parce qu'il faut quand même payer le local, payer le site internet, et vu qu'on ne veut pas faire payer nos lecteurs, pour qu'ils puissent lire des articles en entier et pas payer pour lire les 10 dernières lignes. Donc on rentre totalement dans l'esprit proche des gens, comme le SS est proche des gens, et essaye de l'être toujours au quotidien, sans pression autour, de porter des valeurs sociales, des valeurs solidaires pour intégrer un maximum du peuple dans des actions, dans la vie de leur propre territoire, pour nous le Ternois, mais on est voué à s'agrandir un petit peu.
Et c'est quoi vos sources de revenus ? C'est les subventions principalement ?
On a commencé sans rien en fait. Donc on avait juste mis un petit peu de sous nous de notre côté pour payer l'hébergement du site. Ensuite, Aurélien qui nous a rejoint, qui est stagiaire en commerce, nous vend des espaces publicitaires. Donc aux gens, pareil, même dans la pub, on reste local. Donc on a des petits espaces sur notre site, c'est pas intrusif, on capte pas les infos de nos utilisateurs. C'est vraiment des pubs qui peuvent leur intéresser parce que c'est les commerçants du coin, c'est les petits magasins, c'est les associations qui font une grosse manifestation, qui veulent communiquer. Donc c'est pareil, des pubs à faible coût, des pubs locales. Donc ça, c'est ce qui nous paye nos frais fixes. Après, il y a la petite subvention de l'ESS qui fait du bien, qui permet de quand même voir un petit peu plus à long terme. Et à côté, on développe aussi une partie vidéo. Donc pour le budget citoyen notamment, donc on a filmé quasiment tous les porteurs de projets. Une petite vidéo de 2 minutes pour tous les projets. C'est une partie communication qu'on essaye de développer, que ce soit de la vidéo, de la photo, des publics communiqués. Donc voilà, que ce soit pour des associations, des sociétés, dans le Ternois ou pas d'ailleurs. Voilà, un petit truc annexe qui permettra du coup de rentrer de l'argent pour faire vivre le journal à côté.
Pourquoi le Gobelin ?
Alors, le Gobelin, c'est un personnage mythique. Il y a plein de mythes autour. Notamment, il y a un mythe dans le Ternois que je ne connais pas, je ne pourrais pas te raconter là. C'est l'autre Pierre qui pourrait te le raconter vachement mieux que moi. Mais voilà, lui c'était, enfin le Gobelin déjà, le journal, lui c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis longtemps, qui nous a présenté, donc il a été journaliste pour plusieurs médias avant, et voilà, il avait ça en tête, il avait déjà le nom, et voilà, il nous a proposé l'idée, on est parti comme ça sur un délire, l'été dernier, on était parti sur un délire, vas-y on le fait, tu veux faire un journal, on le fait, donc on lui a fait le site, on lui a fait le logo, on a tous... Voilà, fait ce qu'on savait faire, et voilà.
À notre micro, Pierre, bénévole au journal local et évolutif Le Gobelin du Ternois, soutenu et subventionné lors de ce budget du Conseil départemental de l'économie sociale et solidaire.